Bernard présente Studio 1. Bonjour tout le monde.
Bonjour ma chère Maryse. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à Europe 1. Je m'adresse au public qui vient nombreux de province. Philippe Gildas vient de vous le dire, ça ne va pas s'arranger, il pleut, vous le savez. Alors, nous allons eh bien, écouter celui qui a été pendant près de 50 ans le premier marchand de soleil. Il était le soleil, il était la chanson, il était le charme, il était l'amour à sa façon. Nous allons lui consacrer une émission complète pendant 3 heures. Il y a un an déjà, presque jour pour jour, le 27 septembre 1983, Tino nous quittait. Tino va revivre pendant trois jours, toute la vie et pendant 3 heures aujourd'hui, à travers une 17 chansons environ, et aussi grâce au témoignage de ceux qui l'ont aimé, et nous accueillerons, et je crois que ça fera plaisir à beaucoup d'auditeurs, nous accueillerons tout à l'heure son fils Laurent et Madame Tino Rossi. Je crois qu'on ne les a jamais réunis ensemble sur un plateau de radio. Ils ont accepté de venir parler de Tino. Et puis nous recevrons également d'autres amis qui l'ont bien connu, Gérard Trimbach, mais aussi notre ami Gerbault, qui ont travaillé à ses côtés, qui ont été l'un son attaché de presse, l'autre le biographe, l'historiographe, qui a écrit beaucoup de livres sur Tino, qui connaît tout de Tino. Alors on va tout de suite retrouver cette voix extraordinaire. Hein, et si Julio Iglesias est devenu ce qu'il est, c'est peut-être aussi parce qu'avant lui, il y a eu un Tino aussi. Alors on va tout de suite retrouver Tino. 1936, c'est la chanson d'un film de Capitaine Craddock avec Jean Murat. Ça, les spécialistes reconnaîtront. Et c'est Marinella. Marinella, c'est une plage des sanguinaires où Tino passait souvent ses vacances pendant des années. Il avait sa maison, le Scudo. Marinella, Tino Rossi, 1936.
Marinera, avec ton corps dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour, sans cesser te rouva d'amour, son rythme doux nous emporte bien loin de tôt, vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. Blottis contre mon épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard de douceur. Et quand nos corps se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinera, reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour, dans ces 7 rumbas d'amour. Quand je te tiens là sur mon cœur, pour moi c'est un tel bonheur, aucun mot ne peut l'exprimer, tout mon être est transformé. Je voudrais que ce moment qui me trouve éperdument se prolonge éternellement. Marinella, reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour, sans cesser de nous voir d'amour. Son rythme doux emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux, le beau pays des songes bleus. Blottis contre mon épaule, tandis que nos mains se foulent, je vois des yeux qui m'enjôlent d'un regard de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour, dans ces 7 rois d'amour.
Marinella, tout simplement du film Marinella et non pas du film Le Capitaine Craddock.
Mais j'allais vous le dire parce que je l'ai vu. Maman oui. Était folle de Tino et j'ai vu tous les films.
Capitaine Craddock, c'est ce qui va suivre avec les gars de la marine.
Voilà.
Alors Marinella, vous savez qu'il y avait Jeanne Fusier-Gire dans ce film. La musique était bien sûr de Vincent Scotto. C'était en mars 1936. On va y revenir longuement. Alors puisqu'on parle des gars de la marine, eh bien nous sommes dans l'actualité. Vous savez qu'un an après la mort de Tino, il y a un disque qui vient de sortir. Les inédits disques que Tino n'avait jamais enregistrés. Alors il y a Rêve d'amour de Franz Liszt, il y a La complainte de la butte, il y a La croix porte-bonheur, il y a J'ai pleuré sur tes pas, J'aime les femmes, il y a Frou-frou-frou-frou. Et puisque je vous parle de ces inédits, je voudrais vous dire que ceux qui nous écoutent dans le Nord savent sans doute que du 31 octobre au 11 novembre, dans le cadre de la foire de Lille, a lieu une exposition, une rétrospective Tino Rossi. Sa loge, la dernière, celle du Casino de Paris, a été entièrement reconstituée. Il y aura également plusieurs affiches de sa collection, des affiches de Pathé Marconi, des costumes de scène, disques d'or, quelques souvenirs napoléoniens, ça va de soi. Alors si vous habitez la région de Lille, vous avez bien noté, du 31 octobre au 11 novembre. Et il y a dans ces inédits la fameuse chanson qui est extraite du film de Jean Boyer et Eman qui ont écrit la chanson. C'est en 1932, il y avait Jean Murat dans ce film et c'était le fameux Capitaine Cradock. Écoutez cette chanson, tous les enfants connaissent cette chanson, toutes générations confondues. Les gars de la marine.
Voilà les gars de la marine, quand on est dans l'école bleue, on n'a jamais froid aux yeux, partout du Chili jusqu'en Chine, on les reçoit à bras ouverts les vieux mères, quand une fille les chagrine, ils se consolent avec la mer. Voilà les gars de la marine, du plus petit jusqu'au plus grand, du moussaillon au commandant. Voilà les gars de la marine, quand on est dans l'école bleue, on n'a jamais froid aux yeux, partout du Chili jusqu'en Chine, on les reçoit à bras ouverts les vieux loups de mer, quand une fille les chagrine, ils se consolent avec la mer. Voilà les gars de la marine, du plus petit jusqu'au plus grand, du moussaillon au commandant.
Voilà les gars de la marine, quand on est dans l'école bleue, on n'a jamais pas aux yeux,
partout du Chili jusqu'en Chine, on les reçoit à bras ouverts les vieux loups-mères, quand une fille les chagrine, ils se consolent avec la mer. Voilà de la marine, du plus petit jusqu'au plus grand, du moussaillon au commandant.
Tino Rossi aujourd'hui, qui nous a quittés il y a un an presque jour pour jour. Nous allons recevoir Madame Tino Rossi, son fils Laurent tout à l'heure et d'autres amis qui l'ont bien connu. 1951, Maryse, au pays du soleil, Vincent Scotto, avec, dans la distribution Tino Rossi bien sûr, et avec, dans la liste des chansons, un grand tango.
Oh là là.
Qui a été, je crois, écrit par M. Sarville et Tabé, mais j'en suis pas sûr. Alors, tout à l'heure, le spécialiste Gérard Trimbach me rappellera qui sont les auteurs de cette chanson fort célèbre. Le plus beau, et non pas le plus beau, de tous les tangos du monde.
Vous pouvez danser. C'est celui que j'ai dansé dans vos bras.
Exactement. Voilà. Et oui, j'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là, ma chère Marie. Vous pouvez danser chez vous.
Grève, souvenez-vous, ces voix de rêve, chantez pour nous, minute brève du cher passé, pas encore effacé, le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Thank you.
danser dans vos bras. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras.
Tino, il est né le 29 avril 1907 à 7h du matin dans la rue Fraîche, que les Ajacciens connaissent bien.
C'est un taureau alors.
Ouais, oui, son papa, Laurent, était tailleur et sa mère Eugénie s'occupait de la famille. Voilà, les parents de Tino Rossi avaient souhaité avoir une fille, mais ils ont eu 4 garçons et 4 filles. Voilà. Il y a des photos d'ailleurs dans un livre formidable, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, Jean-Pierre Delville, éditeur, de Gérard Trimbach, qui est sorti il y a quelques années. C'est un livre unique, je crois que si vous voulez tout savoir sur la carrière, sur la vie de Tino Rossi, il faut vous procurer ce livre. Et bien entendu, il y a la liste de toutes les chansons, de tous les films qui ont été tournés par Tino. Et on va retrouver maintenant Tino dans une chanson du folklore corse que personne n'a oublié, la fameuse Ajaccienne. Tino Rossi.
Réveille-toi, ville sacrée, en ton orgueil et ton amour. La sainte famille est rentrée, les exilés sont de retour, les exilés sont de retour. Pour les voici, victoire, victoire, qu'il soit fêté dans sa maison. L'enfant prodigue de la gloire, tard après les pyramides, dans nos murs il revint encore. Avec les mamelouks, les guides, la demura, l'état-major, la demura, l'état-major lui portait la capote grise, le sabre turc, le chapeau rond.
Bien sûr, la chanson préférée de Serge Lama, tous les matins il travaille avec ça. Serge Lama qui triomphe à Marigny, je vous signale que le spectacle commence, j'avais promis à Serge de l'annoncer, à 20h30 et non pas à 21h. C'est un spectacle qui paraît-il est époustouflant. On vous en dira un petit peu plus. Avec Maryse, on ira voir Serge bientôt.
Oui,
puisqu'on parle des spectacles, on ouvre une parenthèse, on s'est retrouvé vendredi soir au Palais des Sports et on a vu un spectacle, alors là, tout à fait exceptionnel. On a vu M. Balavoine en scène.
Oui.
C'est trop tard pour vous car c'est fini, ça s'est terminé hier. Mais si un jour vous avez l'occasion de voir Balavoine à Paris ou en province, n'hésitez pas, vous ne le regarderez pas. Nous consacrons notre émission aujourd'hui à Tino Rossi à l'occasion de la sortie d'inédit de Tino Rossi, des chansons que vous connaissez peut-être, mais que Tino n'avait jamais chantées. En tout cas, c'est un disque qui vient de sortir et qui est un événement. Nous allons recevoir Madame Tino Rossi et son fils Laurent dans quelques minutes, mais aussi des amis à lui, Gérard Trimbat, qui était son secrétaire, son ami, son conseiller, qui connaît tout de Tino. Nous allons également recevoir notre ami Roland Gerbeau, qui a été son attaché de presse, qui a tout connu et qui connaît tout de Tino. Mais d'abord, on va marquer une petite pause et ensuite retrouver Laurent Rossi et sa maman. Au son des guitares.
Au son des guitares, bien sûr, je les connais.
1936, oui. Vincent Scotto, bien sûr. Tino Rossi a le rôle principal. Il y a beaucoup de chansons dans tous ces films qui étaient des adaptations souvent d'opérettes. Il y a beaucoup de chansons. Il y en a une que personne n'a oubliée, tant qu'il y aura des étoiles. Vous pouvez chanter dans la salle, si vous voulez. Tino.
On n'a pas d'abri, on vit dans les rues sans fin. On a le ventre vide et le cœur meurtri, et l'on crève de froid et de faim. Mais nous avons nos richesses malgré tout, le vent du soir, le printemps si doux, tout ça c'est à nous. Tant qu'il y aura des étoiles sous la voûte des cieux, il y aura dans la nuit sans voile du bonheur pour les gueux. Nous les gars sans fortune, nous avons nos trésors, seul un rayon de lune vaut le plus. Ici à la belle étoile, on sera toujours heureux. Tant qu'il y aura des étoiles sous la voûte des cieux. Il n'y a pas de tapis en dessous des ponts, ni de ciel de lit en soi. Mais il y a de l'air, je vous en réponds, et puis l'on s'y trouve chez soi. On est bercé par la chanson du vent, on n'a pas chaud, mais on fait pourtant des rêves enivrants. Tant qu'il y aura des étoiles sous la voûte des cieux, il y aura seul un rayon de lune vaut le plus beau décor. Ici à la belle étoile.
Qu'il y aura des étoiles. Chers amis, je vous demande d'accueillir Laurent Rossi.
Bonjour Laurent. Bonjour Michel. Bonjour Marie.
Eh bien, depuis 45 minutes, Laurent, nous sommes avec ton papa. Et moi, je voudrais te rappeler un souvenir. C'est que lorsque je suis allé pour la première fois en vacances en Corse avec mes parents, il y a très très longtemps, c'était dans la baie des Sanguinaires. Mes parents avaient loué une toute petite maison tout au bout, près de la fontaine. Mm-hmm. Et nous passions tous les matins devant une maison, le Scudo. J'ai appris que c'était le Scudo plus tard, c'était Marinella. Et sur la plage, il y avait un champ de tir à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas encore d'immeuble, il y avait un champ de tir. Et sur la plage, il y avait un petit bonhomme qui jouait avec ses copains. Et c'était Laurent. Laurent, je voudrais que tu nous racontes un peu quelle impression ça fait d'entendre ton père chanter comme ça. On a écouté beaucoup de chansons. Est-ce que tu écoutes beaucoup de chansons de ton père? Je sais qu'il est toujours présent dans ta vie et dans celle de ta maman. Est-ce que tu écoutes souvent des chansons de ton père? Est-ce qu'il t'arrive en voiture de mettre une cassette et d'écouter Tino?
Bien sûr, oui.
Oui.
Mais ça me fait évidemment... c'est très émouvant pour moi, c'est évident. Et d'autre part, bon, toutes les chansons du dernier disque, des inédits, je les mixais personnellement en studio.
Oui.
Et j'écoute, oui, souvent. J'écoute souvent les chansons de mon père.
Alors, j'ai fait référence à l'enfance de Laurent Rossi. Est-ce que Tino Rossi avait le temps d'être également un père?
Oui.
Oui?
Oui, oui.
Il trouvait le temps.
Il trouvait le temps.
C'est-à-dire qu'il y avait des périodes sacrées, c'est-à-dire l'été.
Il y avait des périodes sacrées, l'été en Corse, Noël.
Mm-hmm.
Non, c'était un... En plus, c'était mon ami, c'était mon père et mon ami.
Alors, il ne faut pas oublier que Laurent a chanté. Laurent est producteur, il a réussi des choses très importantes dans son métier comme producteur, mais il également chante. Je voudrais savoir si la décision de chanter pour le fils de Tino a été une décision longue avant de se dessiner.
Mais ça s'est passé un petit peu par hasard, parce que j'avais fait une chanson à l'époque pour Claude François, puisque je composais aussi, et j'ai fait une maquette avec un petit orchestre en studio, et c'est mon père qui m'a poussé à la chanter. Il m'a dit, mais dans le fond, pourquoi tu ne chantes pas ta chanson toi-même? Tout le monde fait ça maintenant, il n'y a aucune raison. Et c'est un petit peu un pari, c'est un peu sur un pari que j'ai fait ça. La chanson n'a pas marché du tout.
Oui.
C'est pour ça que j'en ai fait un tout de suite derrière, parce que je ne voulais pas rester sur un échec, et après ça a marché.
Bon, et les premiers disques, Tino et ta maman ont été les premiers auditeurs, bien sûr, de ces chansons. C'est difficile de chanter quand on est le fils de Tino Rossi et quand on est le fils d'un monsieur qui a une voix pareille.
C'est difficile, mais c'est aussi pour ça que c'est assez intéressant.
Bien sûr, oui. Vous en parliez tous les deux, enfin, techniquement, il te donnait des conseils?
Il me donnait des conseils, mais enfin, il ne voulait pas m'influencer, comme non plus il ne voulait pas m'aider ou m'imposer aux télévisions ou
bien sûr,
en radio.
Vrai. C'est juste.
Il ne l'a jamais fait, j'en suis très reconnaissant d'ailleurs maintenant.
Oui.
Non, mais d'ailleurs, quand on a chanté en duo tous les deux, le premier duo qu'on a enregistré ensemble, j'avais déjà des réussites en tant que chanteur.
Tout à fait. D'ailleurs, on va retrouver ce duo. Chantons la même chanson dans quelques minutes après une pause. Oui, le père et le fils, Tino Rossi et Laurent Rossi. Je voudrais savoir, Laurent, quel était le comportement du papa Rossi en famille? Parce que moi, qui l'ai rencontré souvent, on a fait des émissions ensemble, et j'ai toujours eu l'impression que c'était quelqu'un qui, quelles que soient les circonstances, gardait son calme. Je n'ai jamais vu Tino en colère, je l'ai vu nerveux dans des loges, sur les plateaux de télévision, mais pour des raisons professionnelles.
C'est dommage, parce que ça valait le coup.
Ah bon?
Ouais, ça valait le déplacement.
C'est vrai, il avait des colères violentes.
Terrible.
Comme tous les calmes, c'est vrai.
Oui.
Oui, comme tous les câbles. Qu'est-ce qui l'énervait le plus? L'amateurisme peut-être, hein?
Oui.
Il aimait que les pros, ça se voyait sur les...
Il aimait que les pros, et oui, c'est évident.
Oui. Est-ce qu'il avait, ça on va en parler avec tellement tout à l'heure, est-ce qu'il avait des choses qui l'énervaient plus que d'autres? Par exemple, les journalistes, de temps en temps, l'énervaient. Il le faisait sourire aussi.
Oui, non, il ne lisait jamais les critiques.
Oui, il n'avait plus besoin.
Il disait que la meilleure critique pour lui, c'était lui.
C'était
donc,
le plus,
il savait quand il était moins bien. Et,
il le sentait.
Il le sentait, oui.
Ouais.
Il disait, mais pour lui, le meilleur critique, c'était le public.
Oui. À quel âge Laurent Rossi a-t-il senti qu'il était le fils d'un personnage fort célèbre, aussi connu que Valentino?
Oh, bah, tout de suite, parce que...
Quand tu étais petit, dès que tu es sorti,
oui.
À l'école?
Ah bah oui, à l'école, c'était... je me faisais charrier, quoi.
Ah bon?
Oui. Oui. J'étais très souvent collé, parce que pour bagarre.
Et le Tino Rossi...
Ah oui, Corse, enfin, etc.
Ah oui, d'accord.
Et le Tino Rossi, enfin, tous les jeux de mots qu'on
peut. Tous les jeux de mots. Et le souvenir de Tino Rossi, homme public. Est-ce que tu te souviens, quand tu étais môme, d'être sorti dans un endroit public avec ton père et là d'avoir vraiment découvert ce qu'il représentait pour le public?
J'ai vraiment découvert mon père dans les tournées en province, aussi pendant ses opérettes où j'étais tout le temps dans les coulisses. C'est-à-dire que sorti de l'école, j'allais direct. Je pouvais jouer tous les rôles dans les opérettes. Je savais tout par cœur.
Hein.
J'étais prêt à remplacer n'importe qui, surtout même. Oui, mais c'est comme ça. J'ai appris un petit peu sur le tas.
Alors, il faut préciser, puisque Laurent aussi parle des tournées, que moi j'ai eu l'occasion de présenter ton papa il y a quelques années, car il faut savoir qu'il y a encore quelques années, il y a 4 ou 5 ans, et même avant, 3 ans, Tino chantait encore et remplissait les chapiteaux à bord. J'en suis le témoin. Et j'ai présenté un jour ton papa, c'était au Mans, sous un chapiteau, il y avait 5000 personnes. Bon, il y avait 5000 personnes. Et là, j'étais sidéré parce qu'il n'y avait pas que des gens du troisième âge. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là.
Il y a eu des 15 à 20 000 personnes.
Oui, il y a eu des 15 à 20
000 personnes.
Oui. Alors, ça veut dire que physiquement, il s'était entretenu, il avait su garder cette voix extraordinaire,
car son
père menait une vie calme.
Hein. Il menait une vie calme, mais il restait toujours en contact avec le public.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire qu'il faisait toujours des galas, bon, peut-être des galas exceptionnels, mais il était toujours en contact avec le public, ce qui fait que ça fait aussi peut-être partie de sa longévité.
Tout à fait. Alors, on va retrouver Laurent et son père, je ne sais pas en quelle année, c'est chantons la même chanson.
Il doit être en 75.
Qui avait fait la chanson?
C'est une chanson de Vlyn Bugy.
Vlyn Bugy, la fille de Géo Cogé dont je vous parlais tout à l'heure.
Oui, qui écrivait des chansons pour,
exactement,
pour mon père à l'époque.
Exactement.
J'ai commencé, mes premières chansons, je les ai commencées avec Vlyn Bugy.
Chantons la même chanson, Tino et Laurent aussi.
Pourtant, je me sens complice. Quand je le vois vivre sa vie, je suis bien le père de mon fils. Se faire un prénom quelquefois, ce n'est pas si facile à faire. Surtout quand on s'appelle comme moi, on dit c'est le fils de son père. La chanson super. Papa Noël est toujours là et je suis le fils de mon père.
Laurent Rossi. Dans quelques instants, nous allons recevoir celui qui était un des amis fidèles de Tino Rossi, c'est M. François Abadie. Les amis attends. Fidèles, ceux qui voyaient assez souvent Tino. M. François Abadie, qui est sénateur-maire de Lourdes. Monsieur le maire, monsieur le sénateur, monsieur Abadi, vous avez rencontré Tino, je crois que c'était en 53, non ? 52-53.
Oui, là ouais. Je suis arrivé à Paris.
Et c'est un de vos amis marseillais qui vous l'a présenté ?
Oui, c'était un sénateur de Marseille qui s'appelait Vincent Delpech.
Je crois que Tino donnait pas son amitié comme ça, hein ?
C'était extrêmement difficile de pénétrer dans son intimité, surtout quand on n'est pas corse, ce qui manqua.
Alors, quel souvenir gardez-vous de Tino ? Un homme de bon sens qui avait les pieds sur terre ?
Exactement, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire à la télévision il y a quelques jours. Un homme de bon sens terrien, un homme de bon conseil.
Je me demande si les journalistes, parce que quand on fait une carrière d'artiste au plus haut niveau, il y a bien entendu des journalistes qui parlent de vous, et quand on est une star pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on relit un petit peu les mêmes choses, il y a des clichés qui reviennent. Et à votre avis, je pose la même question à Laurent, à son fils, est-ce que les journalistes ont bien saisi le phénomène Tino Rossi, ou est-ce qu'ils ont écrit beaucoup de bêtises ?
Surtout avant la guerre.
Avant la guerre, oui.
Surtout avant la guerre. Depuis, bon, il était comme tout homme public, habitué à recevoir des attaques, des injures. Mais un homme d'État que j'ai très bien connu et même servi, qui s'appelait Édouard Herriot, disait « On ne lance des pierres qu'à l'arbre qui porte des fruits ».
Bien sûr. Oui. Mais avant la guerre, il en souffrait, Tino ? Il vous en a parlé, Laurent ?
Je n'ai pas connu avant la guerre.
Est-ce qu'il vous en a parlé, Laurent ? on va demander ça à votre maman. Mais est-ce que votre père vous a souvent parlé des rapports un petit peu étranges qu'il avait avec la presse à ses débuts ?
C'est-à-dire que à ses débuts, comme il arrivait de Corse tout frais moulu, et qu'il avait quand même un tempérament corse, donc ça le... Mais il n'a jamais accordé d'importance à ça.
Ouais.
Non.
Il a eu raison.
Ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs, non, il était sûr de lui. Maintenant, on dit, un tel, c'est une star. Les artistes eux-mêmes le disent, d'ailleurs. Ils ont tellement peur qu'on oublie de leur dire qu'ils disent, je suis une star. Lui, il ne le disait pas. Lui,
c'est
il savait, il en était sûr.
Lui, il ne le disait pas. Bon, monsieur Abadi, je crois que Tino était fidèle en amitié. Quand il donnait son amitié, il la donnait bien. Et je crois qu'il nous a quittés au moment où vous avez connu une grande joie dans votre vie.
Oui, c'est-à-dire que j'ai été élu sénateur le dimanche et il est mort quelques heures après. Et je devais déguster une bouillabaisse avec lui à Ajaccio pour fêter mon élection. Il avait même eu la délicatesse de recommander des cigares, tout était prévu. Et malheureusement, le soir, on a décidé... Autrement.
Vous aviez un point commun avec Tino, c'était la table.
Oui.
Car Tino aimait bien manger. Est-ce qu'il faisait un régime, Tino ?
Il se surveillait, mais il n'avait pas vraiment un régime. Oui. Il ne se privait pas vraiment, mais il se surveillait. Et puis, ma mère était là pour ça.
Hein. Oui, on va y venir tout à l'heure. Je crois qu'il aimait bien le Fouquet's. Il passait souvent au Fouquet's. Hein. C'était un petit peu son port d'attache. Hein. C'était là où retrouvait ses amis.
Nous n'allions pas que là, mais très souvent au Fouquet's, d'ailleurs. La dernière fois que j'ai eu le grand plaisir de manger avec lui, c'était au Fouquet's, au moment où il est parti en Corse pour sa convalescence.
Bon, alors, je crois que vous aviez formé le projet de lui faire rencontrer le pape, quand le pape est venu dans votre bonne ville de Lourdes.
Ben, c'est-à-dire que le pape est venu en août 83, et il était déjà très atteint, très malade, il n'a pas pu venir, il était bloqué à Ajaccio.
Je vous remercie d'être venu dire un petit mot. Il faut préciser, Laurent, elle rappelait que Tino avait enregistré, je crois en 79, un disque de cantiques religieux. Hein ?
Oui, c'était pour le centenaire de Bernadette Soubirous. Et il a créé un disque qui est intitulé Lourdes. Il avait fait ça pour me faire plaisir aussi, en grande partie. Il a mis dans ce disque quelques vieux cantiques que le clergé d'aujourd'hui trouve dépassés, pour ne pas dire autre chose. Mais qui rappelle quand même aux personnes qui ont plus de 40 ans ou 50 ans leur première communion, des souvenirs de leur enfance. Et Tino Rossi n'a pas hésité à mettre ses vieux cantiques sur ce disque. Et je crois qu'il se vend bien d'ailleurs.
Bien, je vous remercie beaucoup, monsieur Abadi. On va retrouver Tino, Laurent, avec Au Corse, île d'amour. Ça fait partie de la revue du Casino de Paris. C'était écrit en 1934. Hein.
Exactement.
Un des grands classiques. Merci beaucoup, monsieur Abadi. Au Corse, île d'amour.
Là-bas, près des côtes de France, sur la mer immense, au ciel du midi, il est un vrai coin de paradis. que je chéris au corps ce hymne d'amour, pays où j'ai vu le jour. J'aime tes frères rivages et ton maquis sauvage. J'ai vu des lieux enchanteurs, pourtant au fond de mon corps, je t'appartiens toujours, toujours. Oh, l'amour d'une femme, on donne son âme d'un élan joyeux. Un jour on se bat sous le ciel bleu pour ses beaux yeux. Tes frères rivages et ton maquis sauvage. J'ai vu des lieux enchanteurs, pourtant au fond de mon cœur, je t'appartiens toujours.
Au corps, île d'amour. C'était le secrétaire, l'ami, le conseiller de Tino, et c'est lui qui a signé ce livre sur Tino. Avec des documents extraordinaires, 300 documents, des photos qui retracent la vie, la carrière, vouée au bonheur de chanter. Et à chaque page, il y a un souvenir, il y a un témoignage, et surtout, il y a pour les spécialistes des dates et toutes les distributions, il y a toute la carrière. Gérard, comment vous avez rencontré Tino?
Je l'ai rencontré au bureau, chez Pathé Marconi. C'est le directeur commercial qui m'a demandé de venir dans son bureau, et je suis tombé nez à nez avec Tino Rossi, que je connaissais de nom, mais que je n'avais jamais vu. Et c'est curieux parce qu'on a eu le bon contact tout de suite, des atomes crochus, et vraiment, ça n'a pas arrêté, et vraiment, on a eu un contact fabuleux dès le départ. Et moi je m'occupais des rééditions de Tino, entre autres, à l'époque, et par la suite, j'ai été amené à m'occuper de ces enregistrements nouveaux.
Alors, ce qui m'a fasciné, parce que pour préparer cette émission, nous avons travaillé avec une base formidable, c'est-à-dire votre livre, il y a tout. Comment vous avez fait? D'abord, vous avez une mémoire phénoménale, mais comment vous avez travaillé avec lui? Vous avez fait des recherches?
C'est-à-dire que ce que j'entendais dans la journée de nos dialogues, je le notais le soir, parce qu'il y avait des tas d'anecdotes, des dates qui m'intéressaient. Et pour faire ce livre, je l'ai fait, il l'a vu, et j'en suis ravi. Je lui ai posé des tas de questions, et notamment les chansons du Casino en 34, et par exemple l'heure à laquelle il est né, ne figurait nulle part ailleurs avant ce livre, et je me suis donné la peine de lui demander, mais te rappelles-tu à quelle heure tu es né?
Oui.
Et il m'a dit à 7h.
Exact.
Mais j'ai remarqué qu'aucune bio, aucun papier précédent ne mentionnait l'heure.
Alors, il y a des tas d'anecdotes que vous connaissez sur Tino, on pourrait passer rien qu'une journée avec vous. On peut par exemple rappeler quand il est arrivé en 1932 à Paris pour enregistrer son premier saut de 18 tours, ouais. Il n'arrivait pas à trouver de guitariste.
Il a galéré
Pour
trouver un guitariste qui accepte de l'accompagner. Je trouve ça assez fabuleux quand on voit ça.
Puis un jour, vous m'avez raconté qu'en descendant il y a 10 ans les Champs-Élysées,
oui.
Tino a rencontré quelqu'un qui lui a fait une réflexion assez extraordinaire. C'était, je crois, en se rentrant à l'anniversaire de la mort d'Édith Piaf.
Oui, on descendait là les champs et pour aller à une commémoration des 10 ans, c'était en 63 d'ailleurs. Et Tino me dit, je reviens de Bretagne, j'ai fait un gala. Je lui dis oui, ça s'est bien passé. Il me dit oui, j'ai signé après comme toujours. Et le disquaire effaré de voir les ventes que je réalisais m'a dit,
Mais monsieur Tinor aussi, qu'est-ce que vous allez vendre comme disque quand vous serez mort? Alors moi, je réponds, je lui ai dit, mais il t'a dit ça, le type? Il me dit, oui, il m'a dit ça. Et je lui ai dit, que lui as-tu répondu? Et Tino, avec humour, me dit, je répondu tout simplement, oui, c'est possible, mais heureusement pour moi que j'en aurais vendu quelques-uns avant.
Oui, oui.
Et ça, je m'en souviendrai évidemment toujours.
Alors, il y a une région, enfin, il y a des régions où Tino était vraiment une institution, dans toute la France. Mais il y a des régions où lorsqu'il entrait dans un restaurant, je crois que c'était dans l'Est,
oui,
il pensait quelque chose d'incroyable.
Et il savait en plus que je suis d'origine alsacienne, alors... on était ensemble, il avait signé dans une grande surface à côté de Strasbourg, et le soir on s'est retrouvé au Crocodile pour dîner, bien sûr, et juste avant de rentrer, je sentais qu'il faisait une drôle de tête, parce qu'on se connaissait tellement qu'il suffisait de voir la tête pour savoir l'humeur qu'il avait. Il faisait une drôle de tête, et en arrivant là-dedans, en entrant, d'un seul coup, brusquement, tout le monde se lève, se met au garde-à-vous devant lui, pour son entrée. Et moi j'étais stupéfait. Et on s'assied l'un à côté de l'autre, et il me dit... Et moi, je lui dis, chapeau, mon petit père, c'est du beau boulot. Et lui me répond, je voulais pas t'en parler avant, parce que ça m'était arrivé quelques années avant, mais je pensais que tu m'aurais pas cru.
Ah ouais, c'est-à-dire qu'il est entré dans un restaurant et les gens se levaient.
Absolument, au garde à vous.
Au garde à vous, ça c'est étonnant. On va retrouver maintenant avec Laurent Rossi une chanson qui figure dans ce disque, Les Inédits. Alors Les Inédits, ce sont des chansons que Tino avait enregistrées, mais qui viennent d'horizons différents, qui ont eu des sources différentes, des enregistrements techniques différents.
Des enregistrements techniques différents, des chansons qu'il n'avait pas créées lui-même et qui n'étaient pas sorties, je ne sais pas, d'ailleurs il faudrait demander d'ailleurs à Gérard, puisqu'il y en a pas mal sur ce disque qui ont été enregistrées.
Parce qu'il se disait, peut-être qu'il y en aura une qui sera meilleure que l'autre, et on avait l'habitude pour 12 titres d'en faire 13 ou 14 et 3 pour les simples. Et il s'avère que une fois qu'on avait choisi, il y en avait un ou deux qui restaient en rade, et qu'on a jamais eu l'occasion de replacer dans le contexte d'un album.
Oui, d'ailleurs, ils ne sont pas très anciens, les titres.
Non, c'est récent. Froufrou et autres, La Croix porte bonheur, c'est des dix dernières années.
Oui. Alors, Froufrou, on dit un mot de cette chanson, je vois les auteurs Château, Montréal, Blondeau.
Ça, c'était prévu dans l'album des chansons d'amour, qui est sorti en 78. Il se trouve qu'on en a fait 13, et que c'est Froufrou au montage définitif qui s'est retrouvé sur le bas de la route. Mmh. Et c'est une occasion maintenant, avec ce 30 des inédits, de la reprendre et de la porter à la connaissance.
C'est une chanson qui a été créée en quelle année, Froufrou?
Au début du siècle, je ne veux pas me tromper, dans les années 3 ou 4.
Froufrou, Les Inédits de Tino Rossi.
Froufrou, froufrou, par son jupon la femme, froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'âme, froufrou, froufrou, certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. La femme est en l'air d'un garçon, ne fut jamais très attrayante, c'est le froufrou de son jupon qui la rend surtout excitante. Lorsque l'homme entend ce froufrou, c'est étonnant tout ce qu'il ose. Soudain il voit la vie en rose, il s'électrise, il devient fou. Froufrou, froufrou, par son jupon la femme, froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'âme, froufrou, froufrou, certainement la femme séduit surtout par son
Thank you.
Les cinéphiles se souviennent peut-être que Jean Gabin, dans le chef-d'œuvre de Renoir, La Grande Illusion, avec Pierre Fresnay et Eric von Stroheim, Gabin fredonnait Froufrou.
Absolument.
Bon, alors, nous allons maintenant parler de Petit Papa Noël. Bon, Petit Papa Noël, c'était la grande aventure de David Tino. Bon, Petit Papa Noël, on retrouve cette chanson dans le film Destin, on le retrouve dans Le Marchand de Soleil.
Oui.
Et Tino a toujours dit, moi qui ai toujours chanté chansons d'amour, mon plus grand succès, c'est un succès pour les enfants.
Oui, c'est exact. Et c'est une chanson qui avait vu le jour 2 ans avant, dans une opérette marseillaise. Ça avait été un bide. Et il se trouve que Tino a eu l'occasion de l'entendre parce que Martinet et Vinci l'ont fait auditionner comme ils cherchaient une chanson de Noël nouvelle et non pas un truc déjà connu comme Adeste Fidelis ou autre. Et Tino a été accroché tout de suite. Et Martinet et Vinci n'ont pas osé lui dire que c'était une reprise, s'il la reprenait, dans la mesure où ça avait fait un beat précédent avec un ténor qui s'appelait Le Marchand. Je te rappelle de ça.
Ah ouais.
Et résultat, Tino, lui, l'a mis dans le film et ça a été un tube fabuleux. Je précise pour l'anecdote, ça a été le premier disque d'or en France, en 49, que ce disque d'or, il l'a toujours dans son coffre en banque, et qui pèse 2,5 kg et que c'est en vrai or total. C'est la première fois que ça s'est arrivé.
Mais je crois savoir que ce disque d'or, d'ailleurs, sera exposé
à Lille,
à la fin de Lille,
non,
pour l'exposition
raison.
Dont j'ai parlé, du 31 octobre au 11 hein, novembre, puisqu'il y aura la loge du casino
absolument.
Reconstituée, des affiches, pâté Marconi, costume de scène et premier disque d'or.
Moi je l'ai vu qu'une fois, il était tout le temps dans son coffre. Ah ouais. Et ça a été le seul tout en or.
On va marquer une pause et puis on va écouter ce grand tube. On n'appelait pas ça un tube à l'époque.
Non, un grand succès.
On va marquer une pause et écouter Tino et chanter ensemble. Mais oui, ensemble, car qui ne connaît pas cette chanson, Petit Papa Noël. On se rappelle des souvenirs, fixe des images qui sans elles auraient sombré à tout jamais dans le gouffre de nos mémoires. Les chansons de Tino sont un peu le journal intime de ceux qui n'en tiennent pas. Et cette phrase de Brassens, quand je descendais la rue de l'Hospice à 7 et que j'allais en ville vers le port, et qu'une chanson de Tino Rossi passait à la radio, je l'entendais jusqu'au bout. On la suivait de fenêtre en fenêtre, et chaque fois que je fredonne une de ses chansons, je me revois à 7. C'est ce qu'écrivait Jean il y a quelques années. Et puis piaf. À mes tout débuts, quand je chantais dans la rue pour attirer l'attention du public, il me fallait tout d'abord chanter les chansons du répertoire de Tino Rossi. C'était infaillible. On retrouve Tino, Petit Papa Noël.
C'est la belle lune Noël, la neige est en son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève, pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je vais commander. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Petit Papa Noël, mon petit soulier, que à cause de moi. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier.
Près de 30 millions de petits Papa Noël circulent dans le monde et qu'à la fin de l'année 77, on peut penser que Tino Rossi ait vendu plus de 130 millions de disques. Bon, je crois que c'est un record. D'ailleurs, on ne saura jamais le chiffre exact. On ne saura jamais. Enfin, je crois qu'il y a peut-être Bing Crosby avec White Christmas qui a dû faire aussi bien pour une chanson.
Absolument.
Pour une chanson.
Absolument.
On va vous retrouver tout à l'heure avec Madame Rossi, avec Laurent Rossi, avec Roland Gerbeau, avec tous ceux qui l'ont bien connu et qui ont accepté de venir passer quelques moments, quelques minutes en notre compagnie pour fêter Tino. Alors, en 1962-63, en pleine effervescence, yéyé.
Oui, en plein souvenir-souvenir.
En plein souvenir-souvenir, Le Temps des Guitares, opérette en deux actes et 20 tableaux, Raymond Vinci, Marc Cab, avec des musiques de Francis Lopez.
Et créé à l'ABC.
Créé à l'ABC, et Laurent Rossi me rappelait que son père était un des premiers à poser la guitare dans les orchestres.
C'était le premier, parce qu'à l'époque, on n'en voulait pas dans les orchestres.
Eh oui. Alors, il faut peut-être préciser, si ma mémoire est bonne, que dans Le Temps des Guitares, il y avait le papa de Michel Sardou, non?
Oui, oui, absolument. Hein, et le fils qui était dans les coulisses avec Laurent.
Et le fils en culotte courte?
Non, c'était dans Méditerranée.
C'était dans Méditerranée.
C'était dans Méditerranée au Châtelet.
Au Châtelet. On va y revenir tout à l'heure quand on va écouter Méditerranée. Le Temps des Guitares, 1963. Qui dort aussi.
C'est un peu plus, hein, quand même, comme ça. C'est carrément plus.
L'amour, c'est le temps des copains, le temps du plaisir et de la jeunesse. Quand on a 18 ans, on n'a plus le temps d'attendre longtemps. C'est le temps qui s'en va, il faut à présent gagner de vitesse. C'est le temps qui s'enfuit, le temps des enfants d'aujourd'hui. C'est le temps des guitares. Le temps des jeunes d'aujourd'hui, c'est le temps des guitares, c'est le temps des beaux jours. Oui, 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 c'est le temps des guitares, le temps des filles et de l'amour.
Des guitares. Oui, alors il y avait dans cette opérette, on va le préciser, grâce à M. Trabac, je peux retrouver la distribution, il y avait Pierre Doris, il y avait Maurice Baquet, il y avait Maurice Baquet et bien d'autres comédiens. Oui. Nous allons retrouver Tino dans quelques instants, on va parler de Méditerranée. Hein? Et puis ensuite on demandera à une fan de Tino qui est venue, qui est au premier rang, car nous avons voulu que les fans de Tino soient représentés. Madame Delplante, là, qui est au premier rang, qui était une amie de la famille, elle va nous parler de Tino. Et puis on va retrouver vers, dans une heure environ, Mireille Mathieu, qui avait enregistré un duo pour une émission des Carpentiers.
Oui, c'est Papa Noël.
Ouais,
une version de Petit Papa Noël chantée en duo par eux deux.
Au mois d'août 1941, elle appartenait, je crois, à un corps de ballet avec Miss Tinguette. D'ailleurs, ça s'est passé à Aix-les-Bains. Elle dansait sous le nom de Lilia Vetti. Ensuite, elle a tourné beaucoup de films avec celui qui devait devenir son époux, Tino Rossi. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir Madame Tino Rossi. Bonjour madame, et merci d'avoir accepté de venir nous rendre visite. Je sais que c'est assez exceptionnel et vous êtes venu avec votre fils, avec Gérard Trimbach et avec Roland Gerbeau, tous les amis. Dans l'intimité, je crois que vos proches vous appellent Lily.
C'est exact, oui.
Tino vous a toujours appelé Lily.
Toujours.
Vous pouvez nous rappeler cette rencontre?
Oh, c'est très simple.
T'étais danseuse.
Vous savez, je suis très émue parce que je suis venue pour vous, Michel, vous le savez.
C'est gentil.
Parce que je ne me présentais jamais en public, même du temps du vivant de mon mari. Mais enfin, aujourd'hui, je pense que je le représente un peu.
Oui, et puis je crois que ça lui aurait fait plaisir aussi.
Voilà.
Alors, c'était à Aix-les-Bains.
Eh bien, c'était à Aix-les-Bains où je dansais dans un ballet. Et un soir, il y a eu un très grand gala qui était donné par la grande Miss Tinguette.
Oui.
Qui était une femme charmante dans la vie d'ailleurs, très gentille, et elle nous a présentés. Et je peux dire que depuis ce jour-là, on ne s'est plus quittés.
Bon, bien sûr, vous connaissiez Tino. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez une fan de Tino à l'époque?
Bien sûr. Vous savez, ma génération, c'est la vraie génération des Tino Rossi.
Tout à fait. Alors, des fans, il en avait par milliers, j'allais dire par millions. À quel moment vous avez découvert l'impact que Tino, que votre époux, avait sur le public?
Eh bien, parce que je l'accompagnais partout.
Oui. Ça vous a surpris au début? Agacé? Ou est-ce que vous êtes habitué très vite?
Non, vous savez, en définitive, ça fait partie du métier.
Oui. Enfin, là, c'était exceptionnel quand même.
Mais je crois que c'était un cas.
Ah oui,
exceptionnel.
C'était
vraiment
un cas.
On n'a jamais vu ce qu'on a vu avec Tino. Ça, je le dis parce que je le pense vraiment et je crois que les gens le pensent aussi.
Bon, parce que dans tout ce qui a été écrit sur la vie de Tino, on voit des choses absolument hallucinantes. Je veux dire, on a vu des femmes se coucher devant sa voiture pour l'empêcher de partir.
Et j'ai reçu des coups. En Belgique, par exemple.
Oui.
Pour m'empêcher de monter dans la voiture, on me donnait des coups de poing.
Oui. Mais on s'habitue vite à cette vie avec un personnage de cette dimension, parce que vous aviez rencontré et vous aviez épousé sans doute celui que toutes les femmes adoraient et que
la
Tino Rossi aiguë. Mais je crois que les maris le jalousaient un petit peu. Les maris n'étaient pas toujours contents.
Oui, je crois qu'à ce moment-là, les maris ne l'aimaient pas beaucoup. C'est exact. Oui.
Comment il réagissait, lui, Tino, à ces véritables émeutes? Parce qu'il provoquait des émeutes.
Oui, il provoquait des émeutes, mais vous savez, mon mari était un homme, mon fils l'a dit tout à l'heure, qui était très calme.
Oui, oui.
Et il gardait toujours,
dans
un moment très, très difficile, un sang-froid exceptionnel.
Je crois, Gérard Trimbach, qu'un jour vous avez décidé, vous l'avez convaincu de prendre le métro.
Oui, c'est arrivé une fois au bureau, ça. Parce qu'il m'a demandé de le raccompagner, je lui ai dit oui, je veux bien, mais il faut que tu m'accompagnes en métro jusqu'à Dauphine. Parce que je laissais la voiture à Dauphine, et effectivement... on a pris le métro, ce qui dit n'était pas dû lui arriver depuis un moment. Et après, il a repris l'habitude de le prendre.
Oui, il le prenait assez souvent, d'ailleurs, je veux dire, oui.
Il le prenait, mais c'était plus simple.
Oui, quand vous habitiez à la Porte-Maillot, il prenait le métro pour aller au Phuket.
Oui, oui.
Bon, alors, le charme de Tino, la voix de Tino, on en a parlé pendant un demi-siècle. Est-ce que vous avez été sensible tout de suite à ce timbre de voix particulier? Parce qu'on dit que Tino chantait comme personne, mais il parlait comme personne. Car même quand il parlait, il y avait une espèce de douceur extraordinaire, il y avait un charme fou. Oui.
Il avait une voix très spéciale,
oui.
C'est exact.
Et Laurent m'a dit tout à l'heure qu'il lui arrivait de piquer des crises, comme tous les calmes, et ces crises étaient terribles.
Oui.
Terribles. Et dans ça, alors là,
à ce moment-là,
il claquait la porte.
Pas jusque-là, mais alors il s'énervait, il criait, et moi j'attendais que ça passe, tout simplement.
Alors, vous avez rencontré donc Tino en 41. Il faut préciser que vous étiez comédienne également et vous avez tourné des films ensemble.
C'était bien,
il faut le préciser. On va y revenir dans un instant, mais on va écouter Méditerranée. Là, je me retourne vers celui qui sait tout, vers Gérard Trimbach.
Bon, ben, je sais tout. Alors, dans les coulisses,
on restitue Méditerranée. Méditerranée, ça, c'est un classique.
En 55.
C'est en 55. Alors, je vais directement, je vais à l'année 55. À l'année 55
au
de votre
Châtelet.
Lit. Oui, au Châtelet.
Une opérette montée par Lehmann.
Oui.
Monsieur Lopez, Monsieur Vinci.
Et Monsieur Vinci. Méditerranée. Tino Rossi.
Climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins on se croirait au paradis, près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle, et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, mille jardins lui font comme un collier de fleurs. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuage, au ciel enchanté, Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté, Méditerranée. Au clair de lune, entendez-vous dans le lointain, comme un écho qui sur les vagues s'achemine. Entendez-vous le gai refrain des tambourins, accompagné du trémolo des mandolines. C'est la chanson qui vient bercer toutes les nuits les amoureux du monde entier qu'elle a séduit. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuage, au ciel enchanté, Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté, Méditerranée. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuage, au ciel enchanté.
Alors, je voudrais avec vous, Madame Rossi, qu'on parle de, et avec Gérard, de la carrière au cinéma de Tino Rossi, parce qu'on parle de l'opérette, mais il a tourné beaucoup, beaucoup de films, et Tino a été une tête d'affiche au cinéma, il ne faut pas l'oublier, il a tourné beaucoup de films.
Et il avait un succès avant-guerre, au point de vue nombre de spectateurs dont on parle maintenant tout le temps avec des chiffres, qui dépassait tous les autres
numéro films. Numéro 1 en Europe.
Absolument. Alors, le premier film que vous avez tourné avec Tino, là vous étiez donc comédienne,
c'était un petit truc de rien du tout, parce que je ne voulais pas le laisser, je voulais aller partir avec lui.
Oui.
Et c'était presque, si vous voulez, presque de la figuration. J'en ai pas honte d'ailleurs, je trouve ça très bien. Et c'était dans le champ de l'exilé.
Oui.
Voilà.
Et ensuite, il y a eu des rôles plus importants.
Oui, ensuite, il y a eu L'île d'amour.
L'île d'amour.
Le gardien.
Le gardien.
Et puis après, ma foi, il y a eu Laurent.
Oui.
J'ai préféré m'occuper de mon mari et de mon fils, et je crois que j'ai très très bien choisi.
Alors, le Tino acteur, comment se comportait-il sur les plateaux? Car c'était quand même un autre métier, je sais bien que les films étaient quand même très musicaux. Est-ce que vous avez vu le trac la première fois que vous lui avez donné la réplique?
Pas du tout.
Pas du tout. C'est peut-être lui qui l'avait, non?
Non, il a été toujours... Mais vous savez, je le répète, Tino était un homme tellement calme que tout se passait parfaitement.
Oui. Mais il était calme parce qu'il était quand même sûr de son métier, c'est-à-dire sûr de son talent.
C'était un grand professionnel, il faut croire qu'on peut le dire, oui.
Et il a créé une façon de jouer pleine de naturel, de simplicité, qui vraiment maintenant frappe, parce que c'était quand même assez prémonitoire de jouer...
Alors, à l'attention de ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vécu toute cette époque, je vais vous donner un chiffre. En 1936, Tino, on vendait 80 000 disques par mois de Tino Rossi. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est en 1936.
Par rapport au nombre de phonos qu'il y avait en France.
Par rapport au nombre de phonos, par rapport au, c'est au public potentiel.
Celui qui arrivait en deuxième en vendait 5 ou 10 000.
Exactement.
Et ça, vous pouvez le lire dans les mémoires de Scotto.
Oui, ça c'est considérable. Tino et la radio, Laurent.
Ah, ben j'ai une anecdote à vous raconter. À peine croyable d'ailleurs, quand on raconte ça maintenant. C'est justement comme à l'époque, il passait toutes les 10 minutes à la radio. C'était oui, on entendait que lui.
C'est ce que dit Brassens quand il se promène dans les rues.
Oui, on entendait que lui.
Fenêtre, on entend, Tino.
Et alors, il a fait la chose suivante, il a envoyé une lettre recommandée aux radios pour s'interdire.
Ah bon,
c'est oui. Vrai.
Il a dit, je vous demande d'arrêter de passer.
Oui, je ne passe pas trop, c'est pas possible.
Aussi souvent parce que je vais lasser les gens.
Alors.
Ah oui, c'est vrai.
Je vois pas beaucoup de chanteurs qui pourraient faire la même chose maintenant.
Quand on raconte ça maintenant.
Non, eux, c'est plutôt l'inverse, je demande de me passer.
Oui, oh là là.
Bon, j'ai raconté tout à l'heure, je crois que vous étiez dans votre voiture, madame Rossi, vous l'avez entendu. La première fois que je suis en vacances en Corse, j'ai vu un petit bambin du côté de Marinella. C'était à l'époque qu'il y avait un champ de tir en face de vous, vous voyez.
Il y est toujours.
Il y est toujours le champ de tir.
Oui.
Et il y avait quelqu'un chez vous qui allait à la fontaine. Il y a la petite fontaine, oui. Et il y avait une jeep, quelqu'un, jardinier.
Et malheureusement, maintenant, il y a écrit on ne doit plus boire cette eau.
On ne doit plus boire cette eau. Bon, alors, Tino, il faut préciser, comme on prête souvent au corps cette espèce de nonchalance, voire une espèce de paresse, quand on lit le livre de Trimbach, on s'aperçoit qu'il n'a pas chômé, votre mari. Hein.
Pas du tout.
Il a travaillé beaucoup, 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 mais il retournait tout de même en Corse régulièrement pour se refaire un petit peu une santé. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a traversé un demi-siècle du spectacle français sans jamais avoir des problèmes de voix.
Non, jamais. Je dois dire.
Il suivait un régime particulier.
Quelques rhumes de temps en temps, bien sûr, comme tout le monde, mais enfin, jamais rien de grave.
Il faut préciser qu'à l'époque des opérettes où Tino s'est fait connaître, le son n'était pas ce qu'il est maintenant. Le playback. Il chantait sans micro, il faut le préciser.
Au Casino de Paris.
Au Casino de Paris, il chantait sans micro. Oui. Est-ce qu'il dormait beaucoup?
Pas à ses débuts, non.
Pas à ses débuts.
Non.
Oui. Il se surveillait un petit peu ou pas?
Oui, enfin, il faisait attention, bien sûr, comme tout le monde. Tout le monde.
Bien sûr. Bon, il était fier, bien sûr, de son île, il était fier de la Corse, il était fier de sa famille. Et au début du livre de Gérard Trimbach, je trouve qu'il y a quelques lignes émouvantes sur la famille, sur le papa, qui est d'ailleurs sur cette rue avec quatre frères et quatre sœurs.
La rue Fèche. Il y a même la photo de l'école où il allait, avec le grillage au
Quand
début.
Il ne travaillait pas, qu'est-ce qu'il faisait?
Il travaillait tout le temps.
Oui.
Il ne restait jamais.
Il chantonnait toujours.
Toujours, il écrivait. Il préparait par exemple un an ou deux ans ou trois ans à l'avance qu'il allait enregistrer.
Ouais, c'est ça. Donc il pensait beaucoup à sa carrière.
Tout le temps. Tout le temps.
Oui. Un jour, je me promenais du côté de la porte Maillot dans le bois qui est juste devant chez vous là-bas et je l'ai vu se promener. Je crois que c'est sa promenade.
Tous les jours.
Il faisait sa promenade et je suis passé à côté et il chantait.
Oui.
Il marchait en frottant des chansons.
Toujours.
Et en Corse, en vacances, la même chose, il faisait le tour du parc, de la maison.
Oui, tous les matins.
Tous les jours.
Tous les jours.
Tous les jours. Donc il a quand même eu une vie très saine et très disciplinée.
Très saine.
Hein. Je ne l'ai pas vu beaucoup fumer, beaucoup boire dans sa vie.
Oh, il a beaucoup fumé.
Ah bon, il s'est arrêté en quelle année?
Je crois qu'il a fumé toutes les cigarettes du monde.
Il s'est arrêté
tous
quand?
Les cigares. Il y a 20 ans.
Il y a 20 ans, il s'est arrêté. Ah ben,
il
voilà
s'est arrêté
bon.
Net.
Net.
Et je me suis dit, c'est affreux, ça va être épouvantable, son caractère va changer. Pas du tout, ça s'est très bien passé.
Bon, nous allons marquer une page de pub et puis ensuite demander à une fan de Tino qui est au premier rang, qu'il connaissait bien, de venir dire un petit mot et puis elle va représenter un petit peu toutes les fans de Tino qui nous écoutent aujourd'hui pour on va lui demander de choisir un disque. C'est Madame de la Planque, je lui avais promis qu'elle viendra assister à l'émission et elle était une fan de Tino. Bonjour Madame de la Planque, je crois que vous êtes de quelle région?
Bonjour.
Vous êtes de quelle région Madame de la Planque? Tenez assis, vous êtes du Nord. Assis-vous. Alors, vous avez appris à aimer Tino grâce à vos parents, bien sûr, vous avez vu ses films?
Oui.
Quel est le film qui vous a frappé? Vous m'avez dit un jour, c'était Naples au baiser de feu?
Je l'ai vu dans l'opérette, Naples au baiser de feu.
Oui.
Mais j'ai vu les films Destin, enfin... Oui. Me ferait
alors,
oui,
vous allez le voir dans sa loge?
Oui.
Régulièrement?
Il peut en témoigner, oui. Je crois.
C'est une fan fidèle, hein?
Oui, oui. Accompagnée de ma fille, oui. Toujours.
Alors, Tino, vous voyez, avait toujours un petit mot gentil?
Un mot gentil, oui. La première fois que je l'ai rencontré, disons, en intime... Il m'a dédié l'Ave Maria.
La première fois, vous l'avez vu en intime, il vous a dédié l'Ave Maria.
Il a dédié l'Ave Maria, oui.
Quel cadeau. Bon, Madame de la Planque, choisissez une chanson. De la Planque, choisissez une chanson.
Ben écoutez, je ne sais pas, 50 ans d'amour, puisque voilà. 50 ans d'amour, je me souviens qu'il me l'a chanté, oui, il me l'a chanté en répétition lors d'un palmarès.
Ah oui.
Il n'y avait pas de musique. Il chantonnait, il m'a dit, je prépare 50 ans d'amour où je vais tutoyer le public. Est-ce que ça vous plaira? Oui, pour la première fois de ma vie, est-ce que ça vous plaira? Alors il a dit, je vous demande ça parce que vous faites partie de mon public. Est-ce que vous trouvez que c'est bien? J'ai dit, mais oui, Tino, ce sera très bien.
Eh ben, écoutez, voilà. Ce qui prouve que Tino consultait de temps en temps ses fans. Oui, hein, il avait l'oreille.
C'est-à-dire
hein.
qu'il travaillait beaucoup pour son public. Il faisait très attention. Il disait, c'est le public, il faut que le public aime ce que je chante. Oui.
Mais vous m'avez dit une chose très juste, Madame Rossi, à l'instant, pendant la page de publicité. Vous m'avez dit, les gens pensent, en écoutant Tino, que comme ça, la voix vient tout seul, que techniquement, c'est aucun effort. Mais je crois que lui, Montand, Mariano, traîner, tous ces gens-là, Brassens, ils, comme vous l'avez dit justement, ils ont trimé, comme vous le dites, et ils ont attendu des années. C'est-à-dire que ils ont fait des carrières très longues, mais ça s'est pas fait facilement.
Ah non, pas du tout. D'ailleurs, si vous demandez à un jeune aujourd'hui de refaire ce qu'a fait Maurice Chevalier, par exemple, ou mon mari, à ses débuts, attendre, comme Maurice Chevalier, 30 ans peut-être, ou 20 ans de notoriété, il dira non, tout de suite.
Il commençait par la scène avant.
Oui, il commençait par la scène. Il y avait une chose qui m'avait beaucoup frappé, parce que j'ai fait beaucoup d'émissions avec votre mari, c'est qu'il donnait l'impression de savoir exactement ce qu'il savait faire et ne savait pas faire.
Toujours.
C'est-à-dire, il se connaissait complètement et il n'écoutait personne, car lui seul savait ce qu'il était capable de faire.
Une très grande force.
Oui, et Montand est comme ça.
Il écoutait, mais après...
Il faisait ce qu'il avait envie de faire, parce qu'il savait exactement ce qui était dans ses cordes et ce qui n'était pas dans ses cordes.
Absolument.
Il n'y a qu'un Tino Rossi, d'ailleurs.
Et il ne s'est jamais trompé. Je crois qu'il n'a jamais fait d'erreur de carrière, votre mari.
Non, je ne pense pas, que ce soit au cinéma, dans l'opérette et dans ses enregistrements, je ne pense pas. Il a toujours réussi ce qu'il a fait.
Alors, pour toutes les fans qui nous écoutent, et Dieu sait si elles sont nombreuses, pour vous, Thérèse Deleplan, hein, 50 ans d'amour.
Merci, Michel.
Cinquante ans d'amour entre vous et moi, cinquante ans d'amour, ça ne s'oublie pas, comme au premier jour, c'est le même accord, cinquante ans d'amour. Notre histoire, le jour où l'on s'est rencontré, si la fidélité est rare, nous, on ne s'est jamais trompé. On a connu quelques orages, des conflits de génération, mais toujours nos cœurs étaient sages, et tout finissait en chanson. 50 ans d'amour entre vous et moi, 50 ans d'amour, ça ne s'oublie pas, comme au premier jour, c'est le même accord, 50 ans d'amour. Première fois en scène, je vous discute dans ma chanson.
D'amour, 50 ans de succès. Maurice Chevalier a dit, Tino, vous êtes le plus grand chanteur de tous les temps. Le plus grand chanteur populaire de tous les temps. Et dans la bouche de Maurice Chevalier, c'est une référence. Spécial Tino Rossi, avec Madame Tino Rossi, qui a accepté exceptionnellement et de venir aux côtés de Laurent nous parler de Tino, avec Gérard Trimbach, qui est l'historien. L'historien qui connaît tout Tino. Et dans un instant, nous allons accueillir Mireille Mathieu, mais Johnny Stark, qui vient également, qui ne parle pratiquement jamais, Johnny Stark, mais il a accepté exceptionnellement de venir aujourd'hui nous dire un mot, parce qu'il a bien connu, bien sûr, Tino, et puis Roland Gerbeau qui va nous rejoindre. Je voudrais dire un petit mot de Tino et l'Amérique. Car il faut préciser, Madame Rossi, que votre mari aurait pu faire une carrière aux États-Unis s'il avait voulu. Il a prétexté que l'anglais était difficile, mais c'était un prétexte, non?
Oui, mais il ne s'y plaisait pas là-bas. Non, non. Sa Méditerranée et sa France lui manquaient.
Alors avec Vieni Vieni, il fut 28 semaines de suite numéro 1 au Top Tune of the Week, c'est le plus important hit-parade américain de l'époque. Il faut que vous sachiez quand même que Tino Rossi faisait cette carrière alors que la télé n'existait pas, il faut le préciser quand même.
Il n'y avait que la radio.
Que la radio. Alors ce qui veut dire, Mme Rossi, et Gérard, dites-moi si je me trompe, c'est qu'il y a des milliers et des millions de gens qui le connaissaient, qui l'avaient entendu mais qui ne l'avaient jamais vu.
Jamais vu.
Absolument. Même en Australie, en Afrique du Sud, ils recevaient du courrier de ces pays-là.
Eh oui.
Dans le monde entier.
Dans le monde entier. Alors, maintenant, on va parler de Tino Rossi et le classique. Car il aimait l'opéra.
Beaucoup.
Il aimait le classique, il aurait pu d'ailleurs faire
son
une carrière.
Son père aurait voulu qu'il soit chanteur d'opéra,
oui.
Exact. Alors, on va écouter l'Ave Maria de Schubert. Je demande à Gérard de resituer ça.
Il faut pas oublier que Tino a été le premier chanteur à aborder les chansons classiques sous une forme de simplicité, de variété, comme on dit aujourd'hui. Il est évident que les puristes s'en sont offusqués, mais ça a eu un succès énorme. Il a chanté la romance de Maître Patelin, Les Pêcheurs de Perles, et l'Ave Maria se situe dans le contexte classique que Tino a toujours aimé chanter, aussi bien pour son public que pour lui, faire plaisir et faire plaisir à son père, parce qu'il aimait beaucoup les chanteurs classiques.
Alors on retrouve Tino Rossi, l'Ave Maria de Schubert. Schubert. Je vais maintenant demander à Mireille Mathieu, à Johnny Stark et à Roland Jabot de venir nous rejoindre. Comme ça, on va terminer tous ensemble cette émission. Nous sommes encore jusqu'à 11h30. Car Mireille aimait beaucoup Tino. Elle a chanté d'ailleurs un duo avec Tino, que nous écouterons tout à l'heure. Quant à Johnny Stark, je crois que c'est celui qui l'a le connu parmi les premiers. Il va nous le rappeler. Mireille Mathieu et Johnny Stark. Et Roland Gerbeau qui va nous rejoindre également. Alors, bonjour Mireille, merci infiniment d'être fidèle au rendez-vous de l'amitié.
Bonjour, bien sûr.
Je crois que ça aurait fait plaisir à Tino de nous avoir à nos côtés. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Stark qui ne parle jamais.
C'est vrai, il faut dire que Johnny ne parle rarement. Et...
Monsieur Stark qui s'occupe de la carrière de Mireille, et ce n'est pas un secret, connaît très très bien le monde du spectacle. Et avant de rencontrer Mireille, il faut rappeler que Johnny Stark, dans un passé plus ou moins lointain, a connu Montand, a connu Tino, a connu les débuts de Johnny, entre autres. Vous l'avez connu quand, Tino, Johnny Stark?
J'ai connu Tino au mois de mai 1940. Oui. J'étais un jeune garçon, lui aussi était très jeune. Et il y a eu une petite séparation de quelques années.
Ah, bien sûr.
Parce que nous sommes partis en convalescence avec quelques camarades de mon âge.
Oui.
Et puis je l'ai revu en 46 et nous ne sommes jamais quittés. Tino était mon ami et je crois que j'étais son ami.
Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres? Vous qui avez tant connu ce métier, vous qui avez vu débuter Montand, vous qui avez vu tant de chanteurs passer et repasser.
Depuis ce matin, j'écoutais votre émission. Je crois qu'on a tout dit sur Tino.
Oui.
Il n'y a plus rien à dire. Et j'avais demandé à un de mes amis de faire un texte, de lire un texte, mais comme je n'ai pas le talent, Michel, je vais vous demander de le lire.
Ah, ben j'espère que je vais pouvoir le lire. Vous me direz l'auteur du texte après?
Après, oui.
Bon, alors, vous auriez dû me le passer un petit peu avant, parce que j'espère... Bon, je vais essayer de le faire bien, alors. Le soleil a beau faire une balade en Corse et y chanter souvent les chansons de Scotto, les arbres d'Ajaccio s'ennuient sous leur écorce, et les rues de Bastia pleurent sous les coteaux. Marinella sourit, elle est belle et vivante, et Catarinetta vient de se fiancer. Elles font des enfants, pour la page suivante, il nous manque ta voix pour pouvoir les bercer. Tu nous manques, Tino, et ton absence douce a des accents velours de Méditerranée. La mort, cette île noire, a rejoint l'île rousse, et la France a le cœur en retard d'une année. Tu étais les violons, tu étais la tendresse, tu resteras toujours notre Papa Noël. Tu as changé d'endroit, mais pas changé d'adresse. Aujourd'hui, comme hier, nous t'écrivons au ciel. Le pastis est servi au Café des Nuages, où t'attendaient Pagnol, Fernandel et Rému. Tu nous manques, Tino. Les gamins de ton âge laissent toujours à l'âme un souvenir ému, mais tes refrains sont là. Ils font une guirlande à laquelle accrocher nos peines quelquefois. Et les vagues de Corse écrivent la légende, dont les premiers mots sont « Il était une voix ».
Il est doué, hein. C'est très bien, Michel. J'ai demandé à Claude Lemel de m'écrire ce texte que je devais dire, mais moi, j'ai pas le temps de le dire.
Ouais, Claude votre... Lemel, qui est un grand auteur, il faut le préciser, qui a écrit beaucoup de chanteurs. Bon, alors maintenant, Roland Gerbeau nous a rejoint. Roland Gerbeau, lui également, ça a été un fidèle de Tino. Vous avez été celui qui s'occupait des relations de Tino avec la presse. Avec les médias, avec la radio, avec la presse, avec la télévision.
Avec vous-même, monsieur Drucker.
C'est vrai. Et il faut préciser que vous savez de quoi vous parlez, car vous êtes chanteur au départ.
Je le fus et il m'arrive encore de chanter, bien sûr.
Je le sais. Bon, alors, moi, je vous ai toujours vu dans l'ombre de Tino faire preuve d'une très grande diplomatie. Et vous saviez toujours, au moment précis, si Tino était bien, pas bien, s'il était en forme, pas en forme. Vous veniez sur nous voir dans les coulisses des émissions de télévision en disant... Il n'aime pas attendre trop longtemps. Tino n'aimait pas refaire 10 fois une chanson alors qu'il pensait que c'était au point tout de suite, car il l'avait déjà pensé longtemps à l'avance. Tino disait toujours, en parlant des techniciens à la télévision, « Mais on perd trop de temps, c'est trop long, pourquoi c'est si compliqué ?» Et parce que dans sa tête, c'était déjà très prêt et très clair avant.
C'est vrai, tout était très préparé avec Tino. Il ne faisait rien au hasard et il voulait qu'on parle beaucoup de ce qu'il allait faire avant. Car dès l'instant où il pénétrait sur un plateau, ou dès l'instant où il arrivait à une télévision, il fallait que les choses se déroulent comme elles avaient été prévues.
Oui.
C'était un perfectionniste.
Tout à fait. Alors vous, on parlait avec Madame Rossi tout à l'heure des fans. Vous les avez connus, les fans. Vous avez connu Tino en 40, non?
Moi, j'ai connu Tino, je l'ai entreaperçu la première fois chez un éditeur qui s'appelait Bixio à Paris. Il venait de chanter, d'enregistrer Le secret de tes caresses, qui était une chanson qui a eu un très très grand succès juste avant la guerre. Et Tino, à l'époque, était à l'ABC. Et je me souviens que moi, j'étais à l'époque un jeune chanteur, donc je venais répéter des chansons dans l'édition, qui s'appelait Les Éditions Boursier, 16 boulevard Poissonnière, juste en face du théâtre de l'ABC. Et Tino traversait la rue et venait passer un moment avec Mario Alberti, qui était son éditeur favori de l'époque, Guitarra Romana, d'énormes succès, des grands succès de Tino. Et il allait évidemment dans le salon privilégié de cet éditeur. Il était là, il écoutait ses épreuves de disques, il buvait un petit whisky avec son éditeur favori et Laure Boursier, qui était l'éditrice. Et un jour, je me rappelle, la porte était entrebâillée. Et moi, je mourais d'envie de voir Tino, parce que je l'entendais depuis toujours, depuis des années, et je mourais d'envie de le voir. Et il était debout, en train d'écouter son disque sur un vieil électrophone de l'époque. Enfin, il n'était pas vieux à l'époque, il était très beau, mais pour moi, maintenant, c'est un vieil électrophone. Et Tino était là, planté, super, avec un manteau de tweed magnifique. Il était habillé extraordinairement bien, avec des chaussures super épaisses. Et j'ai été frappé par le personnage de Tino Rossi. J'ai dit, voilà, ça, c'est vraiment un homme extraordinaire. Et c'est un modèle. Il faut vraiment faire comme il a fait pour être ce qu'il est devenu. Et je ne pensais pas que longtemps après, je travaillerais pour lui et je le rencontrerai dans d'autres conditions.
Alors, on va le retrouver avec un extrait d'un des inédits donc, qui sort cette semaine. J'ai pleuré sur tes pas. Alors ça, Gérard, je vous laisse dire un petit mot, parce que J'ai pleuré sur tes pas, c'est un grand classique. Ça.
C'est un grand classique de la période de l'occupation, et c'est Claveau qui l'avait créé.
1943.
En 43.
C'est un tango.
Un tango à la mode en ce moment. Et ça fait partie des chansons que Tino, auxquelles pensait tout le temps Tino, en disant les chansons que j'aurais aimé chanter. Un peu comme Scotto, quand il entendait une mélodie, une belle mélodie à la radio, se disait pourquoi ne l'ai-je pas composée celle-là. Et un jour, Tino, petit à petit, les a enregistrées. Et là, le « J'ai pleuré sur tes pas ».
Alors, vous avez entendu tout à l'heure Les Gars de la Marine, Froufrou, il y a également La Complainte de la Butte, nous allons écouter tout à l'heure, il y a Rêve d'amour, il y a La Croix porte-bonheur, il y a J'aime les femmes, c'est ma folie, il y a Mama, et il y a sur ce disque J'ai pleuré sur tes pas. On écoute Tino.
J'ai pleuré sur tes pas, en murmurant tout bas, la prière d'adieu d'un départ douloureux qui m'ont pris de détresse. J'ai pleuré sur tes pas, voyant mourir déjà tout un passé d'amour fait de tant de beaux jours et de nuits de caresses. Vers ton nouveau destin, vers ton rêve incertain, tandis que tu partais, moi tout seul je restais, fixant avec tristesse le sol où j'ai trouvé ton souvenir gravé, et le cœur déchiré comme un enfant tout bas, j'ai pleuré sur tes pas. Ce matin doucement j'ai vu s'ouvrir la porte, ce n'était pas un rêve, tu me revenais. Tout ce qui s'est passé chérie a comme un porte, puisqu'à nouveau l'espoir ici chantait renaît. L'empreinte de tes pas à l'entrée du jardin se devinait.